Bonjour, je suis Céline Kallmann. Bienvenue dans le titre à la une. Il est de retour en Europe pour la première fois depuis 2019. Le président chinois est arrivé à Paris ce dimanche 5 mai pour célébrer notamment les 60 ans de relations diplomatiques franco-chinoises. Au programme de ce mardi, une escapade personnelle dans les Hautes-Pyrénées en compagnie d'Emmanuel Macron.
Deuxième jour en France pour le président chinois Xi Jinping qui a dîné d'État hier soir à l'Élysée et qui va découvrir les Pyrénées aujourd'hui, le sommet du Tourmalet, précisément sur les terres familiales d'Emmanuel Macron qui a ses habitudes. Les deux présidents vont déjeuner dans un chalet à 2000 mètres d'altitude.
Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, est donc en France pour la troisième fois. Dans une tribune publiée dans le Figaro ce 5 mai, ce dernier promet d'ouvrir les marchés chinois aux entreprises occidentales. Il assure comprendre aussi l'enjeu de la crise ukrainienne pour les Européens. Enfin, il se dit attaché au respect mutuel et à la coexistence pacifique entre États. Xi Jinping, né en 1953 à Pékin, il est à la tête de la Chine depuis plus de 10 ans. Il arrive au pouvoir en 2013.
Un nom à retenir, Xi Jinping. Il a effectué aujourd'hui une première visite officielle aux États-Unis et rencontré ici Barack Obama. Il deviendra dans quelques mois l'un des hommes les plus puissants du monde puisqu'il va succéder à Hu Jintao à la tête du Parti communiste chinois puis de l'État chinois.
En 2013, donc, Xi Jinping atteint le sommet après avoir progressivement gravi les échelons, notamment au sein du tout-puissant Parti communiste.
Xi Jinping est ce que l'on appelle en Chine un prince rouge. Son père est l'un des héros de la guérilla communiste, victime comme beaucoup d'autres des purges de Mao qui le jettent en prison. À 16 ans, Xi Jinping se retrouve donc dans cette cave troglodyte, expédié à la campagne avec des millions de jeunes urbains pour être rééduqué par des paysans. Ce sont les années meurtrières de la révolution culturelle imposée par Mao.
Xi Jinping découvre alors une pauvreté rurale qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Tellement il était coupé des réalités chinoises derrière les murailles des résidences du parti à Pékin. Le journal La Croix écrit ceci. Il n'y a pas d'eau courante, ni d'électricité. La nourriture se limite à des légumes dans un bouillon où nagent quelques céréales. Il n'y a pas de riz ni de blé, contrairement à Pékin. Des hivers rigoureux succèdent à des étés étouffants. Le travail de la terre de l'aube jusqu'à la nuit est épuisant. Xi Jinping s'enfuit, mais revient vite sous la pression de sa mère. À son retour, il semble métamorphosé. Après le rejet, viennent l'adaptation et l'immersion. Ce tournant symbolisera l'acte fondateur de sa vie politique, diront les spécialistes, mais aussi l'histoire officielle.
Il finit par être admis au sein du parti après 10 demandes et peut ainsi fuir son exil. Plutôt que Pékin, le jeune apparatchik demande à gouverner dans les provinces, une méthode assurée en Chine pour monter en grade au sein du parti.
Xi Jinping est ingénieur chimiste de formation, mais son champ d'études est dicté par le parti et jamais il ne fera carrière dans ce domaine. Dans une série consacrée aux leaders chinois en 2022, le journal La Croix cite le commentaire d'un attaché militaire d'un pays européen basé à Pékin. Voici ce qu'il déclare au moment de son élection à la tête du Parti communiste chinois. Il n'est pas spécialement intelligent, n'a pas fait beaucoup d'études et n'a pu grimper les échelons de la hiérarchie communiste qu'avec le piston de son père. Un commentaire, écrit La Croix, qui jette une lumière singulière sur la personnalité du leader qui règne en maître depuis plus de 10 ans sur plus d'un milliard d'habitants. Sa femme est loin d'être n'importe qui. C'est une méga star en Chine.
Sa femme est une célèbre chanteuse populaire, issue des rangs de l'armée.
Peng Yuan est la deuxième épouse de Xi Jinping. En 1999, elle est interrogée sur ses relations avec son mari, alors prometteur gouverneur de province.
Avec une femme célèbre comme vous, on a tendance à dire de votre mari qu'il est l'époux de...
C'est vrai, notre métier fait qu'on est plus célèbre. Mais son succès à lui est défini par son ambition, par ses connaissances et son avenir.
La carrière politique de Xi Jinping va donc le mener au sommet. Jusqu'en 2013, il va tout faire pour entretenir une image d'homme du peuple. En mars 2018, il est réélu à l'unanimité pour un nouveau mandat de 5 ans. Quelques jours plus tôt, la Constitution a été modifiée pour abolir la limitation à 2 du nombre de mandats pour un président. 5 ans plus tard donc, et sans surprise, il est réélu.
Zéro voix contre, zéro abstention, 2952 voix pour les parlementaires ont donc réélu pour un troisième mandat inédit Xi Jinping à la présidence de la République. Il n'avait pas de concurrent. Le président qui a immédiatement prêté serment sur la constitution chinoise, tonnerre d'applaudissements au palais du peuple. Xi Jinping, 69 ans, reste donc l'homme le plus puissant de Chine.
À 70 ans, Xi Jinping a finalement rapidement concentré le pouvoir entre ses mains. Et il a surtout réussi à inscrire la pensée Xi Jinping dans la Constitution. D'ailleurs, en 2019, la propagande à l'heure du numérique n'est plus une fiction. Une application téléchargée depuis des millions de fois permet de calculer la durée passée par les internautes à réviser les citations de Xi Jinping ou à visionner de courtes vidéos consacrées à ses discours et ses voyages. Les utilisateurs gagnent des points en partageant des articles, des crédits virtuels, ensuite convertis en cadeaux et parfois en promotions. Une fonctionnaire raconte s'être sentie obligée d'utiliser l'application, même si ce n'est pas officiellement obligatoire pour les employés de l'État. Xi Jinping a procédé depuis son arrivée au pouvoir à des vagues de purge politique dans toutes les provinces, en éliminant ceux qui pourraient lui faire de l'ombre. Les atteintes aux droits de l'homme se sont accentuées, notamment contre les Ouïghours. Xi Jinping a aussi orchestré des répressions violentes au Tibet et à Hong Kong. Bonjour François Gaudement.
Bonjour.
Vous êtes conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne, spécialiste de la Chine. Le président chinois Xi Jinping était donc en France pour plusieurs jours et notamment pour marquer le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre Pékin et Paris. Emmanuel Macron l'a emmené dans les Hautes-Pyrénées, là où vivait sa grand-mère. Et il disait hier à Xi Jinping, nos montagnes françaises, j'espère, continueront de nous inspirer. Pourquoi avoir fait ce choix de l'emmener là-bas et qu'attendre de cette étape ?
Cette excursion un peu baroque, parce qu'il y a, depuis l'aéroport de Lourdes, il faut monter 1900 mètres jusqu'au col du Tourmalet qui, sauf erreur, à midi était sous la neige. C'est quelque chose qui est une image miroir du déplacement de Macron en Chine, au cours duquel il y avait une séquence dite personnelle où Xi Jinping l'avait invité près de Canton, où son père en particulier a eu des responsabilités importantes, et où il y avait une séquence dans une maison de thé, censée être plus personnelle.
La réciprocité, c'est quelque chose de très important en diplomatie ?
Alors ça ne l'est pas toujours, parce qu'il est clair que il y a une vision que la diplomatie chinoise a de Xi Jinping, qui est un peu la vision d'un empereur. Mais dans ce cas-ci, je crois que l'intérêt chinois était de mettre l'accent, y compris vis-à-vis de l'opinion chinoise, enfin si on peut appeler ça l'opinion, dans la propagande chinoise, sur le fait que Xi Jinping a des rapports de confiance avec des dirigeants occidentaux et la valorisation de la France, de son indépendance, de la reconnaissance par le général de Gaulle, de l'autonomie stratégique, etc. Tout ceci y concourt. Je crois savoir d'ailleurs que la Chine avait eu un choix. Elle aurait aussi pu situer cette rencontre plus personnelle au château de Chambord et que la partie chinoise elle-même a accepté l'excursion au col du Tourmalet.
Et en même temps, Xi Jinping, ce n'est pas vraiment un grand sentimental. Il veut quoi ? Essayer de changer son image quelque part ?
Non, je crois que ce qui compte, c'est l'image de Xi Jinping qui voyage comme il veut à travers le monde, qui est bien reçu, de la paix et de la stabilité qu'il dit rechercher. Et c'est tout. Il faut bien comprendre que, vu de Chine, la vision qu'ils ont d'eux-mêmes est désormais assez dominante.
Et comment, justement, est-ce que vous qualifiez cette visite du leader chinois en France ?
Je voudrais d'abord souligner que le président Macron a réussi à, comment dire, à faire jeu égal sur le plan visuel, photographique, dans les échanges avec Xi Jinping. Ce n'est pas un petit exploit, hein. C'est pas si facile. Ensuite, je crois que ces nouvelles visites que fait Xi Jinping sont assez peu centrées sur ce qu'on peut appeler le business, sur des contrats. Pas de contrat d'Airbus, par exemple. On a beaucoup parlé d'une usine de véhicules électriques BYD. Je crois que les patrons de BYD n'étaient même pas en France. D'ailleurs, Xi Jinping n'avait pratiquement pas emmené de patron dans ses valises. Par contre, Macron a pu négocier, ou le gouvernement français, des accords de fonds sur des sujets qui peuvent paraître mineurs, mais qui en réalité ont un intérêt économique ou commercial pour nous. L'agriculture, dans l'exportation de certaines catégories de viande de porc, de la luzerne déshydratée, ça peut vous paraître insignifiant, et surtout extraire du président chinois un engagement qu'il ne sanctionnera pas le cognac, qui est une grosse exportation française, une exportation agricole, on peut dire, vers la Chine, pour répliquer à d'éventuelles surtaxes sur les voitures électriques en Europe. Je constate que le président Macron a recueilli de Xi Jinping plus que le chancelier Scholz n'avait obtenu à Pékin il y a quelques semaines, beaucoup plus. Mais ce ne sont pas des contrats, des affaires directes. C'est plutôt un environnement des affaires.
Justement, vous parlez d'environnement des affaires. Comment on peut qualifier les relations économiques entre la Chine et la France ?
Elles sont évidemment très déséquilibrées. L'époque où on pouvait la considérer seulement comme un marché est révolue parce que la Chine vend 4 fois plus à la France que nous ne lui vendons. Désormais, de façon fascinante, on est partagé entre l'utilité qu'il y aurait à accueillir des technologies chinoises qui sont dans des secteurs économiques importants, désormais des technologies de pointe, et puis la frayeur qu'on peut avoir devant une concurrence qui est d'ailleurs parfois déloyale puisqu'elle est appuyée sur des subventions, sur de très bas coûts de production, mais aussi, il faut le reconnaître, sur des décennies de préparation, en particulier pour les énergies alternatives, pour tout ce qui est au pétrole et au charbon. C'est une situation nouvelle qui ne ressemble pas aux échanges d'autrefois où traditionnellement la partie française essayait de négocier à l'occasion de ses visites ce qu'on appelait des grands contrats. EDF en Chine, par exemple.
Concernant l'Ukraine, alors c'est un autre sujet, Xi Jinping s'est voulu consensuel, il a réaffirmé la volonté d'œuvrer à une solution politique. Bon, on sait que le président chinois est le principal allié de Vladimir Poutine, qu'il doit d'ailleurs recevoir prochainement. Ça veut dire quoi, être consensuel ?
Disons qu'il a évité de remettre l'accent sur les responsabilités américaines ou occidentales ou OTAN lors de sa visite, en tous les cas en public. Disons qu'il semble s'être engagé à ne pas fournir d'armes à la Russie, tout dépend comment on définit les armes. Disons qu'il s'est engagé à contrôler d'un petit peu plus près les exportations de technologies duales, c'est-à-dire des technologies en principe civiles, mais qui peuvent servir pour des développements militaires. Bon, il faut rester extrêmement prudent devant ce type d'engagement verbal, mais il faut noter qu'Emmanuel Macron les a tout de même obtenus, fondamentalement. Ce n'est pas la France ou l'Europe qui est en position de force pour, disons, persuader la Chine d'observer une certaine retenue, ce sont bien sûr les États-Unis. Mais on peut dire que la France vient d'y prendre sa part.
Sur la question des droits de l'homme, on a souvent l'impression que ça passe au second plan. Je vais citer ce qu'a dit la tête de liste Renaissance Valérie Hayer, qui a appelé à un dialogue de vérité avec Xi Jinping au sujet de la persécution des Ouïghours qu'elle qualifie de génocide. Est-ce que les deux hommes ont discuté du sujet et est-ce que les choses peuvent changer ?
Par définition, on ne le saura pas, puisque dans une interview qu'Emmanuel Macron avait donnée à la Tribune, dimanche dernier, il a cité les droits de l'homme comme un élément nécessaire du dialogue, mais il a ajouté que c'était mieux traité quand c'était traité de façon confidentielle. Donc il est difficile de savoir ce qui s'est réellement dit. Ce que je crois pouvoir affirmer, c'est que sur ce plan, Xi Jinping se montrera absolument intraitable, parce qu'il n'a jamais reculé sur cette question, qu'il s'agisse du Tibet, des Ouïghours, qu'il s'agisse des militants, des activistes ou des simples défenseurs des droits de l'homme en Chine. C'est un dialogue de sourds dans lequel je crois qu'il est toujours utile que les partenaires de la Chine lui rappellent leurs critiques. Mais je ne crois pas à la possibilité d'obtenir des résultats considérables dans ce domaine, étant donné la main de fer avec laquelle Xi Jinping contrôle la Chine.
Cette main de fer, combien de temps Xi Jinping peut-il rester encore au pouvoir? On sait qu'il a changé la constitution.
Oui, c'est-à-dire que théoriquement, il peut se maintenir de façon indéfinie. Il faut se souvenir aussi qu'il y a une tendance au vieillissement des dirigeants internationaux. Je veux dire, ferait-il 4 mandats qu'il atteindrait l'âge de Joe Biden à l'aube de la prochaine élection américaine, ce qui lui ouvre quand même des perspectives. En réalité, dans ce genre de régime, on ne sait jamais quand ça peut se dénouer un jour, mais ce jour, visiblement, n'est pas venu.
Je vous remercie beaucoup, François Gaudement, conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne, spécialiste de la Chine, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.
Merci.
Et merci à Marie Aimé pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.